La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, figurez-vous que nous sortons tout juste d'une remise de décoration effectuée en grande pompe et dans les voies réglementaires. Et ça nous a donné l'idée de la présente émission.
Les musiciens américains, et même français, ont parfois été véritablement honorés. Et je dirais pas qu'ils en avaient pas l'habitude, mais quand même, il y en a pas beaucoup.
Surtout dans le jazz. Alors évidemment, ils ont été honorés de diverses manières. On a édité des timbres, mais c'est difficile de vous mettre un timbre en musique sur une émission de radio. Et il y en a à qui on a vraiment agrafé une décoration à la boutonnière. Ça, c'est plus intéressant. D'ailleurs, ça nous renvoie à nos petites années, parce que quand nous étions enfants, on nous recommandait, attention, n'acceptez jamais de bonbons de quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout s'il est décoré.
Quelle horreur de Quelle dire horreur. Des choses pareilles.
Quelle horreur, vous vous rendez compte. Enfin, en ce qui nous concerne, nous avons adopté l'attitude de Churchill, qui consiste, premièrement, à ne demander aucune décoration, deuxièmement, à ne refuser aucune décoration,
et troisièmement, à ne les jamais porter.
Voilà, c'est-à-dire que pour ne rien vous cacher, nous sommes couverts de médailles que nous ne portons jamais, comme vous vous en
Qu'est-ce
doutez, naturellement.
Qu'il est menteur.
Et nous avons un morceau de circonstances pour ouvrir cette émission sur les décorations et les honneurs. Ce morceau s'appelle...
Oh là, ben ça s'impose. Decoration Day.
Vous vous rendez compte, je ne suis pas sûr qu'il soit systématiquement question d'une rosette à la boutonnière, mais en tout cas, c'est magnifiquement interprété par le pianiste et chanteur Sunnyland Slim, avec deux musiciens tout à fait intéressants. Le père qui joue de l'harmonica, Carré Bell, et le fils qui joue de la guitare, Lurie Bell. Et ça déménage.
She was nice, kind to me that way. Man, I had a sweet little woman, Carrie Bell. God knows she was nice, kind to me that way. Man, but she done died and left Sunnyland. I have the blues now on every decoration day. You know what, Gary? Man, I'm standing around her bedside. Man, I had tears settling in my eyes. Oh, I was standing around my baby's bedside. Please bring me some fibers on every decoration day. Bye.
just want to talk to you. Fellas like Otis Payne, Sonny Boy Williams, Big Bill Brooms and Tamperet, they was in my life in those days. But you know, I just got to tell you this little story. You don't mind, do you, fellas? In 1948, the good Lord takes Sonny Boy. We's brought a minute, half a pipe thing together. We shared our life. And you know, there's something missing when he left me. Tell you about the last friend. Oh my God. 1959, the good Lord. Take the other friend. Woo, it hurt me deep down inside. Big Bill Bruising. God, you know it hurt the old man so. But I will tell y'all something. The same man takes Sonny Boy and Big Bill gonna take me and you too. That's the good Lord above. Come on here with a ride around, man.
Maintenant, s'il y a bien quelqu'un dont on peut dire « c'est mérité, il a été décoré, et puis il en a l'allure », eh bien c'est Duke Ellington. Oui, oui, il a été décoré, Duke Ellington.
Oui, il a été décoré de la Légion d'honneur. Et c'est très curieux car Duke Ellington, qui appréciait énormément la musique d'Eric Satie, a totalement pris le contre-pied à cette remarque de Satie qui disait « il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne l'avoir point méritée ». Eh bien, Ellington ne l'a pas refusé, d'ailleurs il ne l'a pas porté, et il ne l'avait pas demandé. Mais ça a été décidé par le président Pompidou.
Et je pense que c'est très intéressant comme démarche. Je pense qu'il a dû être très touché, pas forcément flatté, mais touché du fait que des Français aient pensé à lui pour une décoration importante.
Et l'idée de départ était venue du grand-père d'une femme politique connue sous le nom de NKM. Ce grand-père, c'était Jacques Kosciusko-Morizet, à l'époque ambassadeur de France aux États-Unis. Et c'est le même ambassadeur qui a remis à Duke Ellington sa décoration à New York le 8 juillet 73. Et là, nous avions un envoyé spécial qui nous a raconté l'affaire à l'époque.
De ce Duke Ellington, que le monde entier connaît, admire et aime en particulier la France. Pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, votre œuvre est immense. Et tous ces beaux musiciens que vous avez fait connaître, et toutes ces ravissantes mélodies et harmonies qu'on vous doit et qui ont franchi toutes les frontières. Aussi, par décret spécial, le président de la République française, Georges Pompidou, a-t-il voulu honorer un grand musicien, un grand Américain et un grand ami de notre pays. Et à travers vous, Mr. Ellington, c'est le jazz que nous saluons aujourd'hui pour la place qu'il tient dans la musique contemporaine, pour sa valeur humaine et pour sa contribution incomparable à la culture universelle.
Et sur ce, en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés, l'ambassadeur Kosciusko-Morizet, qui venait de prononcer ce beau discours, a décoré ce cher Ellington de la Légion d'honneur. Après quoi, il est allé au piano, l'ambassadeur, car il jouait du piano, fort correctement, et il a joué l'introduction d'un célèbre morceau de Duke Ellington, et Duke Ellington s'est glissé au clavier et a pris la suite. Et voici donc ce Mood Indigo, qui était le morceau choisi par l'ambassadeur ce jour-là.
Et naturellement, il n'y avait quand même pas qu'Ellington.
Non, puis il n'y a pas que des rubans à la boutonnière. Il y a d'autres genres d'honneurs très solennels. L'audience papale.
Oh, ça c'est quelque chose.
Ah ben oui. Vous pouvez toujours essayer d'être reçu par le pape, vous-même tout seul comme ça.
Oui.
C'est quand même pas évident.
Voilà. Eh bien, figurez-vous que c'est Louis Armstrong qui a été reçu par le pape Pie XII. Et il le raconte d'une manière tout à fait amusante, ce qui s'est passé à cette audience.
Oui, là nous allons être à un festival à Newport qui a eu lieu juste après le retour de Louis Armstrong de sa tournée européenne, à l'occasion de laquelle il avait donc été reçu par le pape. Et naturellement, le présentateur lui demande de raconter ce qui s'est passé. Le pape, un type vachement sympa. Il a bien aimé notre musique. Puis après, il a parlé toutes sortes de choses. Il a abordé un tas de sujets. Et puis, il m'a posé une question.
Il m'a demandé si j'avais des enfants.
Je lui ai répondu que jusqu'ici, j'en avais pas. Mais qu'avec ma femme, on essayait toujours et avec ardeur.
Et le pape, avec un fin sourire, lui a dit « Eh bien, je prierai pour vous ».
Alors évidemment, ça manque pas de sel d'écouter Armstrong raconter ça à sa façon.
Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, vous n'aurez peut-être pas besoin de traducteur.
Non, c'est pas la peine.
Donc, on va vous passer l'original de Louis Armstrong racontant sa visite.
Et il enchaîne immédiatement sur un magnifique Lazy River, qui a ouvert sa prestation à ce festival de Newport cette année-là.
He was tickled at to know that the Italian people enjoyed our music and he'd speak on any subject and all kind of language, you know. So he's all right, man. He asked me, say, you got any children, you know? I said, well, no, Daddy, but we still willing. He said, well, I'm going to pray for you. He said,
Louis, the city is yours.
Up the lazy river, where the old mill run. Up the lazy river, with the noonday sun. Lingering in the shade of a kind of tree. Throw away your troubles, dream a dream of me, dream a dream of me. Yes. Up the lazy river where the robin song is. Two bright lights as we stroll along. Blue skies up above, the one I love. Up the lazy river, how happy we will be. Mama, yeah. Yeah. Lord says, oh my love, up the lazy river, oh river, you river, oh you dog river, it's where Billy Cobb come in, folks.
Magnifique ce Lazy River, et d'ailleurs le reste de ce passage que vous pourrez trouver si le cœur vous en dit dans un film qui s'appelle Jazz à Newport a été absolument formidable. L'honneur des honneurs en matière de jazz, ça reste quand même quand des musiciens réputés vous dédient spécifiquement à vous un morceau.
Ça veut dire que vous avez beaucoup fait pour le jazz et ses musiciens.
Et que les musiciens ont à cœur de vous remercier de cette façon.
Alors bien sûr. Le premier, c'est évidemment Hugues Panassier.
Oui, ce Français-là qui, comme disait Ulysse Le Lion, est allé apprendre aux Américains eux-mêmes de quelle musique ils pouvaient disposer dans leur propre pays, qui a propagé le jazz en Europe avant la guerre, qui a été un militant absolument extraordinaire. Hugues Panassier est le recordman absolu du nombre de morceaux dédiés. Parce que quand vous lisez sur l'étiquette, il y a Panassier Stomp, Blue Panassier, Blues for Panassier.
Oui, enfin, on pourrait en citer des quantités. Hein.
Et nous en avons choisi un qui a été enregistré en public à la Salle Cortot à Paris par quelques musiciens de l'orchestre de Lionel Hampton, plus quelques Français, dont le saxophoniste ténor Alix Combel, qui était un des meilleurs musiciens français à cette époque-là. Et le morceau s'appelle
« Blue Panacier ».
Ça s'ouvre sur un riff tout à fait excellent.
Thank you.
ça, c'était aussi les premiers enregistrements possibles en longue durée. L'avantage sur la génération d'enregistrement précédente qui était limitée à 3 minutes 20, c'est qu'on pouvait dire aux musiciens, allez-y, improvisez, jouez comme vous voulez, ce qui vous passe par la tête, de toute façon, ce sera enregistré, il n'y a pas de limite. Et c'est pourquoi ils ont pu complètement jouer le blues détendu, sans penser à l'échéance de 3 minutes 20, qui était quand même assez stressante dans les studios, hein, il faut dire.
Et ça dure quand même 8 minutes.
Largement. Nous avons une brochette de 5 de ces grands critiques, organisateurs, producteurs et promoteurs. Le premier était donc français, le deuxième est anglais, il s'appelait Stanley Dance.
Avec un nom pareil, Dance, vous pensez bien qu'il ne pouvait qu'aimer la musique.
Ça, c'est évident. Et c'est un Anglais qui a beaucoup bourlingué en Amérique, énormément fréquenté les musiciens et organisé des tas de choses. Nous n'allons pas faire le détail ni l'inventaire. Mais un grand musicien comme Earl Hines, qui lui a dû la deuxième partie de sa carrière, car Earl Hines avait arrêté la musique et était devenu agent immobilier à l'époque où Stanley Dance l'a un peu fait repartir, a tenu à lui dédier un morceau. Et ce morceau s'appelle, en toute simplicité,
Stanley Dance. C'est intéressant quand on l'écoute vraiment attentivement, parce que cet homme-là, qui n'avait pas particulièrement une culture classique, bien finalement, Il a des accents classiques parfois. Et pourtant, c'est du jazz.
Oh, on ne peut pas rêver plus de jazz que ce jazz-là.
Il y a aussi quelque chose chez lui qui est très particulier aux musiciens noirs américains et peut-être même aux Américains en général. Tu as dit tout à l'heure que le jazz ayant perdu un peu de son public, Earlines finalement, s'était fait agent immobilier. Et c'est très intéressant parce que les Américains, quand il n'y a pas de travail, ils n'hésitent pas, alors que ce sont de vrais artistes, en tous les cas c'est jazzman, ce sont des artistes qui ont été fêtés, reconnus. Il n'y a pas de boulot ? C'est pas grave, on va prendre autre chose. On va pas rester les deux pieds dans le même sabot en disant « moi, je m'épanouis pas dans un autre métier ». Il bosse.
Non seulement il bosse, mais il bosse ailleurs. Parce que Earlines a passé toute sa vie à Chicago jusqu'à qu'il soit obligé, pour avoir du travail et continuer à vivre, d'émigrer à San Francisco. Et je crois que ça peut durer très longtemps d'ailleurs, parce que quand Stanley Dance a appris ça, je crois que c'est ça qui a fait réagir le critique et organisateur. Il a trouvé ça absolument inacceptable. Et il y a eu beaucoup de succès après. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Quoi. Voilà.
Au fond, il a relancé la carrière d'Earlines.
Il l'a relancé absolument, totalement. Alors le troisième de ces cinq messieurs marquants, parce que là, nous parlons des gens qui ont été honorés sans aucune complaisance. Hein. C'est vraiment du cœur à cœur. Hein.
C'était une reconnaissance, ah, oui.
Le troisième s'appelle Yannick Brunog. Il était belge. Nous l'avons d'ailleurs bien connu.
Brosser son portrait, c'est un peu un grand belge, assez silencieux, les yeux clairs, avec un sérieux petit ventre dû à la bière qu'il aimait beaucoup, sans être d'ailleurs alcoolique, mais vous savez, et une moustache. Oh là là.
Très belle moustache. Et puis très gentil. On a vraiment eu de très bons moments avec lui. Alors lui, c'était un modeste. Il a absolument rien voulu savoir pour avoir un morceau sous son nom. Je crois même qu'il a dû se fâcher pour ça. Il était comme ça. En revanche, nous possédons un enregistrement du grand Big Bill Brunzi, chanteur et guitariste de blues, dont Brunog a été l'éditeur des mémoires. C'est-à-dire que Big Bill Brunzi a écrit ses mémoires et c'est Brunog qui les a mis en forme et édité. Et ça, c'était quand même très important. C'est un bouquin fabuleux qui s'appelle Big Bill Blues et qui est vraiment du vécu et raconté avec un style de vécu, je dirais. Et ce que vous allez entendre, ça a été enregistré chez Brunog lui-même, dans sa maison.
Oui, c'est vraiment là aussi du vécu.
Ah, c'est du vécu. C'était à Uccle, un des faubourgs de Bruxelles. Et naturellement, comme Brunog était un homme discret, le morceau que vous allez entendre s'appelle
« Ça ne regarde personne ». Traduction donc « Nobody's Business ».
Nobody's business, nobody's business, nobody's business what I do. Nobody's business what I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business what I do. I go to church on Sunday, cabaret all day Mondays. Nobody's business what I do. Nobody's business, nobody's business what I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business what I do. Nobody's business, no, nobody's business what I do. Work all the week, Saturday night I make a little creep. It's nobody's business what I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business what I do. Nobody's business, no, nobody's business what I do. Nobody's business, nobody's business what I do. I come home and black my wife's eye. It's nobody's business what I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business what I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business what I do. Nobody's business, no. Nobody's business what I do. Nobody's business. Nobody's business. That is nobody's business what I do. Tend to your own business, huh?
Eh bien, nous sommes en train de nous rendre compte que ces amoureux du jazz, c'est l'Europe. Hugues Panassier, français, on vous a passé. Stanley Dance, anglais. Yannick Brunog, belge. Et Johnny Simen, eh bien, il est suisse.
Oui, puis lui, il avait trouvé un truc formidable, parce que tous ces messieurs, au départ, ils ne se destinaient pas à la musique. Hugues Panassier devait être ingénieur agronome. Stanley Dance et Yannick Brunog, juriste. Et... voici maintenant Johnny Simen, qui est suisse donc, et lui, il avait trouvé un filon formidable. Il était public relations chez Swissair pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'il passait sa vie entre Zurich et New York, et gratuitement sur les avions.
N'est-ce pas ? C'est toujours intéressant, ça. Hein ?
Et il avait même réussi à faire voyager la Swissair en jazz, car à cette époque où il n'y avait pas encore de cinéma dans les avions, on pouvait entendre de la musique. Et la musique, c'était du jazz et du re-jazz, et toujours très bien choisi par Johnny Simen.
Je voudrais quand même remarquer que peut-être les amateurs de classique n'étaient pas forcément contents, mais...
Non, je crois qu'il y avait une piste pour le classique quand même. Mais il était très convaincant avec le jazz, Johnny Simen. C'était un type extraordinaire. Il était capable de remplir une feuille de SACEM avec les titres des morceaux qu'il avait entendus sans qu'on les lui donne, plus les compositeurs et les auteurs.
Ah oui, quand même.
Ah non, mais ça, c'est... grosse, grosse culture. C'était un grand ami de l'orchestre du Moustier, et quand il est mort...
Bah vous avez tenu à l'honorer.
C'est donc à la mémoire de Johnny Simen que nous avons enregistré un blues qui s'appelle...
This One for Johnny. Oh,
Le cinquième de ces messieurs, et d'ailleurs le seul que nous n'ayons jamais eu l'occasion de rencontrer, s'appelait
John Hammond.
Alors lui, c'était un cas. Il venait d'une famille qui était dans les affaires et qui avait gagné beaucoup d'argent. C'est un Américain, hein, c'est une famille d'Amérique.
À la limite, il aurait même presque pu ne pas travailler.
Oui, oui, moi je pense que c'est un type qui se destinait au commerce et aux affaires, mais qu'il a rencontré le jazz sur son chemin. Et John Hammond est un personnage très important, car c'est le premier blanc américain à s'intéresser au jazz au point d'arriver à le promouvoir efficacement dans les années 30. Et on lui doit en particulier d'avoir boosté Bessie Smith, d'avoir boosté tous les artistes qui se produisaient pour la Columbia, d'avoir connu un peu tout le monde, et puis d'avoir organisé ces fameux concerts extraordinaires du Carnegie Hall que nous avons eu l'occasion
de vous passer
les premiers grands concerts de jazz multiplateau. Alors Hammond, c'est un type important, et donc c'est pour ça que la pianiste Mary Lou Williams, par ailleurs grande fofolle devant l'éternel, eh bien Mary Lou Williams lui a dédié, en toute simplicité,
Blues for John Hammond.
On peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire plus concis, non?
Alors ça, c'était les promoteurs, bénévoles les trois quarts du temps, ou professionnels, mais promoteur du jazz, mais il y a quelqu'un qui a été mis à l'honneur. C'est un des premiers disc jockeys de jazz.
Oui, parce qu'à côté des grands organisateurs que nous avons évoqués, il y a une catégorie de gens très influente à une certaine époque, qu'on appelait les disc jockeys, donc, mais qui n'étaient pas les disc jockeys comme on les connaît maintenant. C'était en fait les animateurs des stations de radio axées sur la musique. Et il y en avait de très célèbres. Nous avons pris le plus célèbre d'entre eux, qui s'appelait
Symphony Sid. Naturellement, c'était un surnom.
Il s'appelait en fait Sidney Torin. C'est lui qui est le recordman des morceaux dédiés, parce qu'il n'y a qu'un seul morceau, mais qui a été enregistré une foultitude de fois. Et ce morceau s'appelle
Jumping with Symphony Sid.
Et là, nous avons choisi une version peu connue du alors tout jeune Oscar Peterson.
Eh bien, pour terminer, après avoir mis en valeur les grands acteurs du monde du jazz, on va maintenant finir sur une manière plus mignonne, plus tendre, plus jolie. C'est quand un musicien dédie quelque chose à un membre de sa famille. Et là, en l'occurrence, c'est Ray Bryant qui va jouer Little Susie.
Little Susie, c'était la... Donc, la fille de Ray Bryant,
sa fille.
La petite Susie, à l'époque.
Elle a dû grandir depuis, la petite Susie.
Elle a bien dû profiter. Et alors, c'est un disque important. Ce disque-là, il a fait énormément de bruit quand il est sorti, et pas que chez les amateurs de jazz. On en a parlé au lycée pendant longtemps. Pour nous, c'était un exemple, nous qui écoutions beaucoup de musique au lycée. C'était un exemple de perfection à la batterie. Car il faut savoir que dans ce Little Susie, où les frères Bryant jouent du piano et de la contrebasse, le batteur s'appelle
Joe Jones.
Thank you.
C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.